Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2018. Vous êtes à l'émission des Voix de service magazine et je suis accompagné à mon retour de vacances de Monique Kerr.
Bonjour, bon retour, Yvan.
Merci beaucoup.
Vous m'avez manqué, cher ami.
Ah, c'était réciproque. D'ailleurs, Marie et moi, on vous a écouté.
Ah, ben c'est bien, ça fait plaisir.
Une fois.
Une fois, bon, une oui. fois sur quatre.
C'est des îles de la Madeleine.
Oui, c'est bien.
C'était une journée où on a décidé d'y aller mollo. Non, pas nécessairement.
Non.
OK. Là, vous sous-entendez qu'on vous écoute quand c'est moche. Ce qui n'était pas le cas.
Le temps était moche. Oui, oui.
Non, il a fait vraiment très, très beau. Bon. On a beaucoup marché.
Ah, c'est bien.
On a fait de l'exercice physique.
Ah, c'est bien, je suis fière de vous.
On a utilisé les articles qu'on raconte ici, oui. puis on les a mis en pratique.
C'est bien ça.
C'est pas pire.
Hein? Oui, bravo.
Alors, mettons de côté... ma vie de vacancier.
Oui.
Et revenons à notre programme pour aujourd'hui,
oui.
Monique.
Alors, de quoi on parlera, c'est
oui.
ça?
Oui, c'est ça la question.
On parlera d'abord d'archéologie et des dernières découvertes à la suite de nouvelles fouilles que l'on fait à Pompéi. Et oui, encore Pompéi.
Oui.
Hein, c'est incroyable.
Oui.
Ensuite, on s'intéressera à la technologie. Et plus spécifiquement à l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais comment cela s'applique-t-il, par exemple, à la suite Office de Microsoft? Alors, qu'est-ce que fait Microsoft dans ce domaine?
Quelque chose qui nous touche tous.
Qui pourrait nous toucher, oui, tout à fait.
Mm-hmm.
Et pour finir avec, pourquoi pas un peu d'histoire,
pourquoi
je parlerai
pas?
De l'histoire de la paille.
L'histoire de la paille, la paille a été un sujet pendant tout l'été.
Ben, c'est ça. Donc, je continue. Mais je vous raconte son histoire.
OK. Le suspense est maintenant installé.
Exactement.
Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, me touche personnellement. C'est pédaler pour vieillir. Alors, j'ai toutes les conditions.
Je pensais qu'il fallait pédaler pour rester jeune, pour ne pas vieillir.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est ça, dans cet esprit-là.
T'as compris.
D'accord. Oui. Okay.
Ensuite, formation. Être entraîneur, c'est vraiment une tâche qui peut être assez poignante, assez forte. Il y a une formation qui se donne pour les entraîneurs pour qu'ils deviennent des mentors.
Ah.
Alors, ça dépasse juste le côté strictement sportif de la chose.
Oui.
Et évidemment, à mon retour, je vous reviens avec un carnet d'endorphines.
Ben ça nous étonne.
Ben oui, n'est-ce pas? Et c'est le sujet, c'est la rentrée sportive.
Ah, d'accord.
En 7 belles étapes.
Aïe.
Pas sérieuse du tout.
D'accord.
Alors, Maurice Bolduc va essayer de mettre un peu de discipline dans tout ça et on va lui demander de mettre de la musique un peu. Alors, Monique, tu nous amènes en Italie?
Je vous amène en Italie. Alors, c'est archéologie, hein, le domaine.
Oui.
Alors, c'est Bernadette Arnault qui nous écrit un article pour la revue Science et Avenir de juin 2018. Et cet article s'intitule « Pompéi livre de nouveaux trésors ».
C'est continu, ça.
Oui. Alors, ce sont 1000 mètres carrés d'où émergent peu à peu des vestiges engloutis depuis 2000 ans sous 4 mètres de lapillis grisâtre. Alors, lapillis, c'est toutes ces petites roches poreuses, grises, qui viennent du volcan.
Ouais.
Alors, la grille d'une fenêtre, de délicates fresques d'amour joufflues et de dauphins bondissant sur un fond d'ocre rouge, des vestiges de jardins que des paléobotanistes devraient prochainement investir pour en faire l'étude.
Des paléobotanistes?
Oui, voilà.
Ça commence à être spécialisé
c'est
pas mal,
très
ça, hein?
Spécialisé. Alors, deux mois, à peine après son ouverture aux fouilles, la Regio 5, l'une des 9 divisions cadastrales de la cité ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79.
Oui,
ça fait quand
il
n'y
a
même...
pas de chiffre avant 79.
Non, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de 1000.
C'est 79.
C'est 79. Fait battre le cœur des archéologues. On comprend. Alors, les découvertes se succèdent depuis que les autorités archéologiques ont décidé de s'intéresser aux quelques 22 hectares, soit le tiers du total, resté intact depuis le début des excavations. Alors, quand est-ce que ces excavations ont commencé? Eh bien,
c'est une question pour moi, ça?
C'est en 1738.
OK.
Donc, 79, le terrible événement,
oui.
et 1738, le début des excavations.
Donc.
Donc, des restes d'espaces publics, privés, des portiques et des objets commencent à sortir du sol. Et ce, dans le secteur nord, entre la maison du mariage d'argent, connue depuis 1893, et celle de Marcus Lucretius Fronton, identifié au 19e siècle par les inscriptions électorales conservées sur la façade. Donc, les travaux devraient durer 2 ans pour un total de 8,5 millions d'euros, soit à peu près 11 millions de dollars canadiens. Le choix de la région pour cette campagne menée dans le cadre du grand projet Pompéi a été motivé par la nécessité de sécuriser ce secteur partiellement étudié depuis dans sa périphérie entre 1836 et 1875, puis endommagé par des bombardements alliés en 1943, donc lors de la Deuxième Guerre mondiale. Des travaux de consolidation devraient notamment prémunir le site contre les risques d'inondation qui, à chaque pluie violente, provoquent des glissements de terrain et l'effondrement de murs. Par ailleurs, les responsables estiment que les technologies mises en œuvre par les archéologues aujourd'hui sont aujourd'hui suffisamment abouties pour tirer le meilleur profit des vestiges sans risquer de les abîmer. Alors maintenant, on utilise drones, lasers et reconstitution 3D pour explorer ces surfaces, à l'instar des fouilles qui sont menées dans la villa de Diodème qui ont été menées en 2013.
On s'éloigne d'Indiana Jones, tranquillement.
Ben, totalement, oui. Car l'originalité de cette nouvelle mission est de pouvoir examiner la totalité du quartier sans se limiter à une ou deux domus, c'est-à-dire maisons, ou tombeaux, comme ce fut le cas en 2017 avec la mise au jour de la sépulture de, alors, soyez indulgents, Gnaeus Aleo Nigidius Maio. C'est un personnage...
C'est son prénom, son nom?
C'est son nom complet. Okay. Alors, c'est un personnage influent qui est mort un an avant les catastrophes, avant la catastrophe. Et tous les rêves sont désormais permis, y compris celui d'exhumer, bien sûr, de nouvelles dépouilles de victimes de la catastrophe. Car les archéologues savent que de nombreuses victimes gisent encore sous les morceaux de cendres. Excusez-moi. Ainsi, à l'extérieur de la Regio 5, près des thermes de la ville, les restes d'un enfant de 7 ans viennent d'être retrouvés là où il a probablement tenté en vain de se réfugier pour échapper à l'éruption. Ces découvertes empliront de nouvelles pages des volumes du Pompeinarium Antiquatum Historia, dans lesquels sont consignées toutes les trouvailles effectuées depuis le 18e siècle. C'est incroyable quand même. On aimerait bien voir ces volumes-là.
J'arrête pas de me dire ça. C'est en 73.
79. Okay. Elles auront aussi pour objectif de faire oublier les accidents successifs qui ont frappé ces dernières années, entre scandales et incuries, plusieurs édifices du prestigieux site classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1997. Le secteur devrait rester tout de même accessible aux curieux pendant toute la durée des recherches.
Quand même.
Alors voilà, c'était donc un article de Bernadette Arnault pour la revue Science et Avenir de juin 2018 qui nous parlait donc de cette nouvelle zone de fouilles à Pompéi.
C'est tentant de laisser la musique jouer, mais on a trouvé plein d'articles à vous partager, alors on va être obligé de couper un petit peu. Celui-ci, ça a été écrit par une dame qui s'appelle Joanie Caron, qui a une maîtrise en kinésiologie et physiologie de l'exercice. C'est paru dans Vélomag, septembre-octobre 2018, et ça s'appelle « Pédaler pour vieillir en santé ». Qu'il serait bon d'avoir une machine à arrêter le temps afin de conserver l'énergie et la fougue de la vingtaine sans avoir à se soucier des petits bobos d'usure qui surviennent avec l'âge. Existe-t-il une fontaine de jouvence qui fait en sorte qu'on préserve la vivacité du corps et de l'esprit? Plus spécifiquement, la pratique du cyclisme serait-elle la solution miracle pour atténuer les effets du vieillissement? Je l'espère beaucoup. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les gens vivent plus vieux que jamais, et ce, partout sur la planète. On estime qu'en 2050, on est en 2018 ici, là, donc dans 32 ans, 2 milliards d'individus seront âgés de plus de 60 ans. En 2015, il y a 3 ans, ce nombre était de 900 millions.
Ah, mon Dieu!
Alors, ça va plus que doubler.
Bien sûr, oui.
Le vieillissement est un ensemble de processus physiologiques et psychologiques qui mènent à des modifications de la structure et du fonctionnement de l'organisme. Ces processus résultent d'une part de la génétique, d'autre part de facteurs environnementaux, ce qui sous-entend que, en tant qu'individu, nos actions ont un certain impact. Parmi les changements observables, notons, là c'est toutes des affaires plates qui s'en viennent.
Oui, oui, oui.
La diminution de la force et de la masse musculaire.
Yeah.
La modification de la composition corporelle, soit une augmentation de la masse grasse au détriment de la masse maigre, le muscle, en plus d'une diminution du contenu en eau. Ça va bien, là. La diminution de la fréquence cardiaque maximale et de la contraction du muscle cardiaque. La diminution de la consommation maximale en oxygène, souvent connue comme VO2 max. La diminution de l'élasticité des tendons. La diminution, c'est juste des diminutions, de la capacité de récupération. Ces changements se produisent de façon lente et progressive, certains effets se faisant sentir dès l'âge de 30 ans.
Est-ce qu'on se met à pleurer maintenant?
Non, ça va aller après.
Ça va aller. Okay.
Par exemple, on se sent moins fort ou bien l'énergie n'est pas au niveau qu'on avait dans la vingtaine. Le vélo recrute toujours plus d'adeptes âgés de 50 ans et plus. Au Québec, la croissance de la pratique est phénoménale chez les 65 à 74 ans. Elle est passée de 9 % en 1995 à 29 % en 2015. Avec l'âge, les obligations diminuent. Parfois, ce qui donne la chance de consacrer davantage de temps aux loisirs et de se sentir en forme. Aussi, on veut non seulement vivre plus longtemps, mais mieux, et avoir la santé qu'il faut pour profiter de ces beaux jours. Bien sûr, les changements physiologiques mentionnés affectent la performance sportive proprement dite. Cependant, bonne nouvelle, la pratique régulière du cyclisme peut concourir à minimiser les effets liés au vieillissement, entre autres en préservant la force et l'endurance musculaire. Il s'agit de la conclusion d'une étude menée auprès de 125 cyclistes, hommes et femmes, âgés de 55 à 79 ans, pédalant au seuil minimum. Pour les hommes, c'est une distance de 100 km dans une vitesse d'environ 24 km à l'heure, et pour les femmes, c'est 60 km à une vitesse de 11 km à l'heure.
Oh mon Dieu, une grande différence.
Oui, je trouvais moi aussi. L'étude mentionnait que les muscles des cyclistes âgés, actifs, présentaient beaucoup moins de signes de détérioration musculaire que ceux de leurs confrères et consœurs moins actifs. Les cyclistes âgés, actifs, étaient plus forts, en meilleure condition physique et plus susceptibles de demeurer en santé. En effet, des effets positifs ont été constatés sur des marqueurs du système immunitaire. Des effets bénéfiques ont également été observés sur la performance cardiovasculaire des individus, amorçant un programme combinant séances d'entraînement par intervalle et musculation. Même si ces résultats indiquent qu'il n'est jamais trop tard pour débuter, il est recommandé de le faire à un moment où le muscle cardiaque possède encore une certaine contractilité et une bonne puissance cardiaque afin de maximiser les bénéfices, soit idéalement avant 65 ans. Alors, tous ceux qui nous écoutent sont dans cette catégorie-là. La capacité de récupérer... La capacité de récupérer à la suite d'un effort intense diminue-t-elle avec l'âge? Certaines études suggèrent que les muscles se réparent à un rythme bien plus lent. Toutefois, il n'y a pas de consensus. Consommer davantage de protéines immédiatement après l'effort pourrait aider les muscles et les autres tissus à accélérer la récupération. Outre l'aspect physiologique, la performance cognitive et le bien-être psychologique sont des éléments qu'on ne peut ignorer. La pratique régulière du vélo contribue à préserver les fonctions intellectuelles, notamment en créant de nouvelles connexions synaptiques dans le cerveau, ce qui facilite le traitement et l'analyse de l'information. Bref, ça garde l'esprit vif.
Oui.
Il y a un Siri qui vient de s'ouvrir quelque part, je ne sais pas.
C'est pas le mien.
OK. Bref, ça garde l'esprit vif et ça améliore l'humeur, d'où l'importance de pédaler aussi souvent que possible. S'ajoute à tous ces effets bénéfiques le fait que de participer à des randonnées de groupe ou se joindre à un club favorise les rencontres d'autres adeptes et par la même occasion la socialisation, pareillement un gage de longévité. Sachant tout cela, quelle serait la formule d'entraînement miracle sur deux roues pour conserver sa jeunesse? La fréquence, être actif un peu tous les jours, joue un rôle, de même que, et tout particulièrement, l'intensité des séances. Ainsi donc, il est conseillé d'intégrer une ou deux séances d'entraînement par intervalle à la routine.
Mm-hmm.
Par intervalle, ça veut dire qu'on en fait des bouts plus vite, des
oui,
bouts
oui,
plus lents.
Oui.
Et on complète par un peu de musculation et des sorties de groupe bénéfiques à la fois pour le plan social et pour l'endurance. Et on a le parfait cocktail anti-âge. Alors, c'était un article, c'est très sérieux, dans Vélomag. Alors, pour pédaler, moi, je vais continuer à pédaler pour essayer de vieillir en santé.
J'ajouterais qu'on peut pédaler, mais on peut marcher, on peut
oui.
faire des excursions costaudes
oui, oui,
aussi
oui.
En marchant.
Tout
pédaler,
à fait.
C'est une possibilité.
C'est une des possibilités.
En fait, il faut varier
oui.
Les activités,
oui,
crois.
Ben moi, c'est ce que je préconise, oui.
Oui.
Puis c'est ce que j'essaye de faire aussi.
C'est bien.
Alors, Maurice.
Tempestades, tão longo amor é amor demais. Mil vezes vi você partindo, mil vezes eu não quis voltar. E nesse quarto sem herdeiro, os móveis ainda refletem clarões de velhas trovoadas. Que atormentavam nossas vidas. Você queria ganhar, eu não queria mais conquistas. Meu amor, meu tão querido e tão amado amor, da madrugada até o sol se pôr. Te amo ainda, eu te amo. Seu sortilégio, você conhece o meu feitiço. Eu aceitei o seu mistério. Você gostou do meu enguiço. Perdoei sua ingratidão e fui capaz de traição. O corpo tem seus pedidos e no final. Com muito jeito conseguimos amar e ponto final.
Oh meu amor, meu tão querido e tão amado amor, da madrugada até o sol se pôr. Te amo ainda, eu te amo.
Haverá pior castigo do que viver o amor em paz. Hoje você já chora menos, hoje não me rasgo mais e somos dois livros abertos. Romance escrito no tom certo, sem dor e sem sofrimento, mesmo que sobre um tormento.
Meu amor, meu tão querido e tão amado amor, da madrugada até o sol se pôr. Te amo ainda, eu te amo.
la chanson des vieux amants revue par le trio Esperanza.
Merci.
Quelle belle version. Merci. Intelligence artificielle.
Oui, alors on a parlé de muscles avec la bicyclette. Là, oui, on va parler de...
Muscles cérébraux?
De logiciels musclés.
OK.
Alors, c'est un article d'Olivier Hertel pour la revue Science et Avenir de juin 2018 dans la section bureautique et ça s'intitule « Des logiciels musclés à l'intelligence artificielle ». Alors, l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi l'IA pour tous. Alors, voilà le nouveau credo de la multinationale américaine Microsoft, premier fournisseur mondial de logiciels comme Google, Apple ou encore Facebook, est en scène désormais dans tous les produits commerciaux. Bien souvent, celle-ci passe inaperçue de la plupart des utilisateurs, en particulier dans le domaine de la bureautique. Pourtant, en quelques mois, l'IA a envahi les logiciels Word, traitement de texte, Excel, qui est un tableur,
chiffrier, hein?
Et le PowerPoint pour les présentations.
Mm-hmm.
Les plus populaires, donc, de la suite Office 365, qui compte aujourd'hui 120 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors, pour la firme de Redmond, qui est dans l'État de Washington, comme pour les autres géants des technologies numériques, l'IA est devenue une obsession. Objectif, décupler les capacités de l'humain, mais aussi, plus prosaïquement, accompagner un très large public dans ses tâches informatiques quotidiennes afin de rendre chacun, c'est entre guillemets, plus productif, selon les termes de l'entreprise. L'innovation la plus populaire concerne la traduction simultanée intégrée à PowerPoint. Or, ce logiciel, presque en situation de monopole dans les conférences publiques et réunions professionnelles, sert de support visuel à tous les exposés, à tout exposé oral à travers des textes courts, des tableaux, des graphiques, des images, des vidéos. Lors de la présentation, la voix de l'intervenant est captée par le micro de l'ordinateur ou par un micro-casque qui lui est relié. L'IA détecte alors les mots et le contexte dans lequel ils sont prononcés pour produire, en temps réel, des sous-titres dans la langue choisie sur les diapositives projetées à l'écran. C'est assez intéressant
là,
quand même.
Tu dois vraiment souhaiter que la traduction est bonne, par exemple.
Ben, oui, bien sûr. Mieux, chaque auditeur peut suivre la conférence directement sur son smartphone, sur son téléphone intelligent. C'est un article français. Dans la langue de son choix, grâce à une application dédiée qui s'appelle Microsoft Translator. Même si la traduction n'est pas parfaite, elle résout un problème de taille, on le devine, celui de la communication dans une assemblée internationale où tout le monde ne parle pas anglais.
Mm-hmm.
Les algorithmes de l'intelligence artificielle tentent également de résoudre l'une des failles de PowerPoint, le manque de créativité des utilisateurs. Je pense que dans notre milieu de travail, on a vécu ça, n'est-ce
on
pas,
on a tous compris ça et fait ça, d'ailleurs, je pense.
Ah, moi, j'ai tellement travaillé là-dessus avec mes équipes, mais enfin. Ainsi, pour la mise en forme des diapositives et non pas slides, le logiciel propose automatiquement plusieurs façons d'ordonner les photos ou, et surtout, je dirais, de hiérarchiser le texte comme le ferait un pro.
Oh!
Alors, PowerPoint dispose aussi de la fonction morphose, qui anime des objets en 3D lors du passage d'une diapositive à la suivante. Ces modèles virtuels sont téléchargés en ligne dans une base de données aux thématiques très variées. Alors, on peut imaginer, là, animaux, gadgets, véhicules, nourriture, etc. Et peuvent être intégrés dans une photo du monde réel. Il est ainsi possible de faire évoluer un drone virtuel au-dessus d'une ville, par exemple, avec la possibilité de jouer sur la perspective ou de le faire tourner pour donner l'illusion d'une acrobatie. Alors, les algorithmes d'intelligence artificielle animent l'objet d'un point A à un point B. Le mouvement est, pour l'heure, très simple, mais ouvre la voie à des animations plus complexes pour les mois ou les années à venir. Microsoft intervient aussi dans l'aide à la rédaction d'un curriculum vitae. Pour l'heure, l'option n'est active, semble-t-il, qu'aux États-Unis, mais devrait arriver très vite dans les marchés, dans les autres marchés. En ouvrant un CV dans Word, l'IA comprend de quel document il s'agit et va contribuer à améliorer en se fondant sur les données du réseau social professionnel LinkedIn. Ce logiciel, qui a été racheté en 2016 par Microsoft, regroupe en effet les CV de quelque 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, on le devine, une mine d'informations.
Mm-hmm.
L'IA analyse les données du CV et va chercher dans LinkedIn les profils des personnes qui exercent la même profession, par exemple ingénieur réseau. Il propose ainsi de choisir l'industrie qui intéresse le postulant, comme les télécommunications. À partir de ces données-là, il affiche une description affinée des profils en précisant les compétences requises dont est indispensable qu'ils aient été mentionnés sur le CV. Poursuit. Voilà. Alors, en outre, l'assistant affiche toutes les offres d'emploi publiées sur LinkedIn pour le poste recherché. Alors, le cas de la bureautique fournit un bon exemple de ce que devrait être dans les prochains mois et années l'introduction de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, que ce soit en télécommunication, en automobile, aéronautique, la défense, et on en passe. Donc, une arrivée progressive et surtout, qu'on espère transparente, pour faire de l'IA sans le savoir. C'était donc un article de Olivier Hertel pour la revue Science et Art et Avenir. Je vois Yvan qui lève les sourcils.
Non, je suis soufflé. Je suis soufflé. J'espère qu'il va y avoir un encadrement éthique avec tout ça aussi.
Oh, hein? C'est la grande question et il y a beaucoup de travaux qui se font à cet égard sur l'éthique de l'intelligence artificielle.
Oui. Une brève avant qu'on se laisse. Coup de pouce pour le vélo. Il y a certaines municipalités qui incitent les citoyens à se procurer un vélo, tel Granby, qui offre 75 $ à l'achat d'un usager, coût du vélo dans un organisme local, 50 $ s'il est neuf et 100 $ pour un vélo à assistance électrique. La ville de Laval accorde de son côté une subvention de 400 $ dans ce dernier cas. Alors, on vous laisse pour quelques instants, jus d'orange, café, etc. Et on vous revient avec des articles sur comment devenir entraîneur et la Mésopotamie. À tantôt.
La paille.
Vous écoutez les voix de service.
Ils ont dit que c'était la main écoutée, l'œil en feuille et la dent de coquille, telle était la main écoutée. C'était en haut de la plaine, il fallait pour aller là la patience et l'aviron, connaissance de la chute, du portage et du courant. Oui, comment l'eau culbute les oreilles de charrue et le mort et les cirés, les corps morts et les écumes, veille à gauche, veille à droite, à la pince et au ballon, sans vouloir te commander. Tiens-toi bien, pile et salé, pas grande eau, mais c'est assez pour te dire qu'à l'eau douce, on finit par dessaler. Et ça, c'était pour l'été. Semaine, un rapide gros bouillon, elle faisait son dimanche en amont du quatrième, vivant encore et paresseuse, avec du sable en dorure et les beaux cailloux tout ronds. À deux pas, c'est une source, à trois pas, c'est un brûlé, le frein à eau, puis les framboises, les bleuets, puis les berries, et le petit bois d'argent. Prends ton temps, prends pas ta course, c'est piquant, puis déchirant. Pas si vite, assis-toi là, on va compter les cailloux. Ça, c'était pour le beau temps. Telle était
premier jour de gelée, elle a déjà le gros dos, les manches en pis les manteaux, tout en blanc et beau et chaud. Elle a la race et la grâce, elle est de chasse et de glace, elle est renard et les bisons, les rats musqués, les castors, le loup cervier pis la loutre lui fondante, elle est de trace. Et quand la glace est trop mince pour la tenir enfermée, elle saute à la fenêtre, elle est noire et douce et froide, et c'est le froid qui la dompte à la tombée de la nuit. C'est le temps de l'hiver. Ils croiront que c'était une amante. Moi, je dirais que c'était la manicoutée, jeune et vieille et muette et parlante. Telle était la manicoutée. C'était le temps du trappeur et le temps des compagnies. On partait le 20 octobre, on revenait fin janvier. Quand un homme est à la chasse, sa blonde a des cavaliers. Sont partis le même jour, mais chacun de son côté. On a trouvé par les traces qu'une fois rendu au piège, avaient chassé tous les deux jusqu'à ce trou dans la neige. Attention, la glace est mince, tu la salueras pour moi. Non, viens pas, tiens-toi, j'arrive. Les chiens sont revenus tout seuls. Ça, c'était pour le la manicoutée. Ils diront qu'avec l'âge on oublie. Telle était la manicoutée.
Monique Lérac, la manicoutée.
Merci beaucoup, Maurice. Et là, on commence avec un programme de formation que j'ai trouvé assez impressionnant. Ça s'appelle « Formation d'entraîneur à mentor ». C'est fait pour c'est fait par un organisme qui s'appelle « Pour trois points ». Être entraîneur ne se limite pas à apprendre les rudiments d'un sport aux jeunes. Il s'agit plutôt d'un mentorat qui peut changer leur vie ainsi que celle de toute la communauté. Depuis ses débuts en 2014, l'organisme a formé un réseau de 62 entraîneurs, dont la cinquième cohorte vient d'entreprendre ses activités. C'est un article qui était dans la presse d'hier, sous la plume de Evelyne Audet, et je vous le lis. Une vingtaine d'entraîneurs, âgés de 18 à 30 ans, ont participé à une retraite de 4 jours dans les Laurentides, du 16 au 19 août. Celle-ci est le point de départ de la formation d'un an, donnée chaque année par l'organisme pour 3 points, P3P. Il s'agit d'un programme de développement du leadership pour les entraîneurs sportifs qui désirent peaufiner leur approche avec les jeunes, particulièrement ceux des milieux défavorisés. On part du principe que les jeunes qui font un sport sont motivés par ce sport. Donc, le coach peut agir comme vecteur de cette motivation pour qu'on la voie se matérialiser ailleurs dans la vie des jeunes, à la maison, dans la rue, à l'école. Ça favorise leur épanouissement, explique Fabrice Ville, cofondateur et président de P3P. On forme nos entraîneurs pour qu'ils deviennent aussi des coachs de vie et des mentors. Le profil des participants sélectionnés pour le programme est varié. Certains sont étudiants, d'autres sont sur le marché du travail, mais tous sont des entraîneurs sportifs qui sont interpellés par l'enjeu de l'égalité des chances et qui désirent avoir un impact dans leur communauté. La plupart ont le désir d'être entraîneurs à long terme, mais les notions apprises peuvent aussi s'appliquer dans leur vie de tous les jours. Durant l'année de formation, différentes stratégies d'apprentissage sont mises de l'avant. Les participants assistent à des ateliers de formation tous les 2 mois. Ils obtiennent aussi une expérience pratique en étant entraîneurs d'une équipe sportive. Ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé durant leur pratique comme entraîneur. Un conseiller en développement les accompagne et leur donne une rétroaction. Finalement, ils participent à des rassemblements en groupe pour discuter de leurs enjeux et de leur avancement. Après plusieurs années comme joueur de basketball, Emmanuela Michel, 21 ans, est devenue entraîneuse. Elle a été l'assistante d'une entraîneuse qui avait suivi le programme P3P. « Ce que j'ai remarqué, dit-elle, c'est que contrairement aux autres coachs, elle ne faisait pas juste enseigner aux jeunes à gagner. Elle les accompagnait vraiment jusque dans leurs problèmes. il pouvait se confier à elle. Elle était vraiment à l'écoute des jeunes et elle les aidait à trouver des solutions, indique la jeune femme. J'ai tellement eu d'entraîneurs dans ma vie qui ne faisaient que pour faire jouer au basket pour gagner que cette approche m'a interpellée. Aujourd'hui étudiante en psychologie et sociologie à l'Université de Montréal et toujours entraîneuse de basket, elle vient de se joindre au programme P3P. J'aime vraiment les approches humaines et c'en est une. Ce n'est pas tant le résultat compétitif final qui compte, mais beaucoup plus le cheminement et le résultat intérieur et émotionnel des individus. On peut avoir une équipe qui ne performe pas vraiment bien sur le terrain, mais dont les individus progressent très bien comme personnes, philosophe-t-elle. Olivier Jean-Charles, 26 ans, fait aussi partie de la cohorte 2018 du programme. Après avoir joué jusqu'au niveau collégial, il est lui aussi devenu entraîneur. Je m'adressais à des jeunes de 9 à 11 ans et je voulais les faire gagner à tout prix. Je leur transmettais mon esprit compétitif et ça a été mon année la plus difficile comme entraîneur. C'est cette année que j'ai vraiment commencé à comprendre que ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est le développement du jeune, affirme-t-il. Il faut les amener à s'adapter et à devenir de meilleures personnes. Chaque enfant est unique et est capable de conquérir le monde s'il est bien accompagné. C'est là que notre rôle devient important. Selon Fabrice Ville, le programme P3P est unique au monde et bonifie grandement l'expérience d'entraîneur. Dans le cadre du projet de maîtrise d'un de ses étudiants, le laboratoire de recherche de l'Institut McGill a généré des données sur l'impact du programme. Des effets ont été observés autant chez les entraîneurs que chez les jeunes. Tout d'abord, les entraîneurs réalisent beaucoup plus le rôle d'éducation qu'ils ont auprès des jeunes. Puis, dans leur comportement, ils arrivent davantage à responsabiliser les jeunes et à les impliquer dans les processus de décision, donc à les rendre autonomes au lieu de tout décider pour eux, explique le président de l'organisme. Les jeunes, eux, deviennent plus motivés, plus autonomes et entretiennent un meilleur lien avec leur coach. Ils ont significativement moins de comportements antisociaux que des jeunes coachés par des entraîneurs qui n'ont pas été formés par P3P. Cela a un impact majeur sur leur communauté. Pour 3 Points est un organisme sans but lucratif financé par des dons publics. Son programme d'entraîneur est donné gratuitement, mais est limité à environ 20 participants par année. Un processus de sélection rigoureux a donc été mis en place. Les entraîneurs qui doivent adhérer au programme doivent répondre à plusieurs critères. Ils doivent aussi remplir un long questionnaire, puis se livrer à 2 entrevues de 30 minutes chacune. On vise les gens qui sont ouverts à l'apprentissage, mais aussi qui ont un grand potentiel de leadership, donc qui peuvent avoir un impact positif sur les jeunes ainsi que sur leur milieu de vie. C'est l'effet multiplicateur qu'on vise, nous explique Fabrice Ville. Dans la foulée de la rentrée, on parle beaucoup de l'école et de ce qui se passe dans les classes, mais il est aussi important de réfléchir à la façon dont on accompagne nos jeunes à l'extérieur de la classe. C'était un article dans la presse d'hier, sous la plume d'Evelyne Audet, qui s'appelle « Formation d'entraîneur à mentor ». Alors, en annonce de la prochaine moitié de l'émission, j'ai parlé de la Mésopotamie, mais j'ai oublié l'élément essentiel.
Oui, c'était la paille.
La paille?
Oui, la paille, c'est ça. Alors, c'est un texte de Javan Abel Turton qui a été publié le 10 août 2018 pour le site Info-Radio-Canada. Et l'article s'intitule « De la Mésopotamie au plastique, voici l'histoire de la paille ».
Oh, allons-y.
Allons-y. Alors, il y a fort longtemps que les humains ont compris qu'ils pouvaient boire à travers des tiges végétales. Grâce à l'ingéniosité de certains inventeurs, l'humble paille a beaucoup évolué. Aujourd'hui, certains puisent dans le passé de ce simple objet pour réinventer et réduire son impact environnemental. Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yvan, on parle beaucoup de la paille depuis quelques temps.
Cet été, ça a été un grand sujet.
Voilà. Alors, la plus ancienne paille découverte par des archéologues remonte à 2600 ans avant Jésus-Christ. Il y a donc près de 4600 ans. L'objet précieux était un tube en or et en plus orné de lapis-lazuli. Il a été découvert dans une tombe de la ville d'Ur en Mésopotamie. La Mésopotamie, aujourd'hui, c'est à peu près l'Irak. Alors, un sceau trouvé dans la même sépulture a confirmé la fonction de l'objet. On y voit deux hommes buvant de la bière à même une cruche avec des pailles. Certains historiens avancent que son utilisation était une façon d'éviter d'avaler les dépôts solides résultant de la fermentation du liquide alcoolisé. En Amérique du Sud, des pailles métalliques plus sophistiquées, appelées bombillas, servent depuis des siècles à la consommation du maté, qui est une boisson faite à partir d'une plante infusée, une espèce de thé. L'extrémité extérieure de la bombilla contient un filtre qui peut prendre différentes formes et qui permet d'aspirer l'infusion sans avaler les feuilles. Les bombillas traditionnelles sont souvent fabriquées à partir de mailles fortes, c'est-à-dire d'un alliage de cuivre, de nickel et de zinc. Il n'en demeure pas moins qu'avant la fin du 19e siècle, la vaste majorité des pailles utilisées pour boire étaient faites en paille. Les tiges de la paille, dépouillées de leurs épis de grains, sont naturellement creuses et sont ainsi parfaites pour aspirer des liquides. Marvin Stone, un inventeur et homme d'affaires américain, trouvait que les tubes en paille se ramollissaient trop vite dans ses jus à la menthe, un cocktail à base de whisky, et leur donnait un arrière-goût végétal fort désagréable.
Lui, il buvait son cocktail à base de whisky avec une paille.
Ben, ça a l'air que oui.
Oh, bon, okay.
Il paraît que ça monte à la tête plus vite, mais bon. Il a donc enroulé un ruban de papier autour d'un crayon et a utilisé de la colle pour le maintenir en forme de tube. Le prototype de la paille de papier était né. Plus tard, M. Stone a recouvert ses pailles de cire de paraffine pour les rendre plus résistantes au liquide et il a breveté le procédé de fabrication, comme il est brillant. Il fallut attendre un demi-siècle avant qu'une autre révolution secoue l'univers de la paille. C'est en observant sa fille avoir de la difficulté à boire un lait frappé à travers une paille droite mal adaptée à sa taille que Joseph B. Friedman a eu un éclair de génie. L'inventeur a utilisé de la soie dentaire pour imprimer sur la surface d'une paille de papier les sillons hélicoïdaux d'une vis qu'il y avait insérée. La section en forme d'accordéon ainsi créée sur le tube permettait à celui-ci de plier tout en laissant couler le liquide.
Oh mon Dieu!
Ce design aussi simple qu'efficace fut breveté, bien sûr, par Joseph Friedman en 1937.
1937?
Oui, il se lance alors dans la production de masse des pailles flexibles avec son entreprise FlexStraw. Ce sont d'abord les hôpitaux qui ont adopté cette invention qui permettait de faire boire les malades alités tout en maintenant leur verre à un angle confortable.
Mm-hmm.
L'avènement massif de la restauration rapide a ensuite amené la paille flexible aux lèvres du grand public américain. À la même époque, un nouveau matériau faisait son apparition dans la vie de tous les jours, le plastique. Bien que l'idée d'en fabriquer des pailles existe depuis les années 30, il a fallu attendre l'après-guerre pour que l'idée devienne réalisable à grande échelle. Joseph Friedman, alors un important joueur de l'industrie de la paille, comprend les possibilités offertes par le nouveau matériau. Donc, dès 1951, il brevette une version plastique de sa paille flexible. Le jour du papier comme matériau de base des pailles était compté. Le plastique devenait de plus en plus abordable et les pailles ont pris une part grandissante du marché durant les années 60. L'abondance et le bas prix du plastique ont mené à toutes les déclinaisons de pailles traditionnelles. On a vu apparaître des pailles de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs,
c'est
bien
vrai,
sûr.
Tout à fait, ben oui.
La surabondance de paille de plastique et la négligence avec laquelle on les jette ont toutefois eu leur lot de conséquences.
Mon Dieu, j'ai fait ça ce matin.
Ah, quelle horreur!
Oui, je sais.
Alors que les gouvernements du monde et le grand public sont davantage conscientisés par la pollution causée par le plastique, le mouvement anti-paille gagne du terrain. Les pratiques de nos ancêtres, qui buvaient à travers des tubes végétaux ou métalliques, semblent redevenir en mode, en vogue. Donc, des entreprises tentent aujourd'hui de remettre au goût du jour l'utilisation millénaire de la paille naturelle. Pour convaincre les consommateurs, elles vantent les mérites écologiques de ces tubes biodégradables faits de paille séchée et même de bambou. Alors, c'est un grand détour pour revenir aux pailles de nos ancêtres. Alors, soyons prudents, n'utilisons plus de paille en plastique. Et surtout, si on en utilise, Yvan, on ne les jette pas.
Je vais aller les chercher là, dans la poubelle.
Alors, c'est un texte de Javan Abel Turton qui a été publié le 10 août 2018 pour le site Info Radio-Canada.
Merci. Alors, chère Monique.
Oui.
C'est le temps de la rentrée. Hein? On parle surtout de la rentrée scolaire.
Oui.
Quelqu'un comme moi qui arrive de vacances parle de la rentrée, mais...
La rentrée, tout
court. La rentrée, oui. Ici, je vous parle de la rentrée sportive.
Mm-hmm.
Dans les carnets
d'art. Ça va être sportif.
Oui, peut-être, oui, peut-être. En tout cas, il y a un bout de sportif pour moi au niveau de la prononciation, vous allez voir.
Ah.
C'est dans l'article de Geneviève Lefebvre, évidemment, dans la presse, du 22 août, la semaine dernière. « Comment réussir sa rentrée sportive en 7 étapes faciles?
Mm-hmm. »
Ça a été écrit la semaine dernière, il faisait chaud, n'oubliez pas ça. « Les vacances, c'est formidable. La canicule apocalyptique, les cigales qui enterrent Oceaga, le pichet d'ouzo à portée de la main, quasi Santorini dans le centre-sud, et la pile de romans au pied du hamac. Le pivot de Marie-Ève Coton, le Santerre de Marie-Ève Sévigny et les murailles d'Erika Soucy. Tout baigne dans une langueur au parfum de Coppertone. L'effort? Oh, si peu! Ou alors le lever du pichet plein et le transport du sac de glaçons façon musculation de biceps. Avant de replonger avec délice dans Étincelle de Michel Plomer. Oui, oui, c'est une chronique de sport ici. Et puis, sans prévenir, un abruti zélé sonne la cloche qui annonce la fin de la récréation.
Mm-hmm.
Il faut se lever du hamac, poser des étiquettes sur du matériel scolaire et reprendre sa place dans le trafic, comme chante Cabrel. Devant tant de pression, une seule solution, la fuite.
Sauf... Et pas en avant.
N'importe où.
N'importe où.
Sauf que pour fuir, ça prend des jambes, de l'endurance et du souffle. Par ici la rentrée en 7 étapes faciles. Première étape, d'abord régler la question du temps. Le temps, personne n'en a. On le prend, on le maximise, on le rentabilise. Des parents font le tour du quartier à la course pendant les parties de hockey, leçons de violoncelle des enfants. Non, on n'est pas obligé de rester à toutes les pratiques pour les encourager. Des workaholics qui sauvent des vies pratiquent le transport actif en running ou à vélo avec assiduité matin et soir. Des insomniaques se disent que tant qu'à tourner d'un bord puis de l'autre, autant aller au gym. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Attendez un instant. C'est peut-être... Oui, c'est ça. OK, je m'excuse beaucoup. C'est mon téléphone qui me dit des affaires qui n'est pas supposé me parler.
Si Marie avait été là, elle t'aurait dit,
oui,
Yvan, fermez votre téléphone.
Je l'avais fermé, mais là, c'est comme... C'est arrivé quelque chose. Je ne sais pas. OK, je m'excuse. On est toujours dans les workaholics. Non, les insomniaques qui se disent que tant qu'à tourner d'un bord puis de l'autre, autant aller au gym. Coucou Christine Brouillet. J'ai déjà vu des hommes d'affaires chinois en costume-cravate pratiquer leur tai chi sur le tarmac d'un aéroport.
Bien sûr.
Quand bouger fait partie intégrante de ta vie, l'imagination trouve des solutions. Deuxième étape. Ensuite, régler la question de la maudite motivation. Ça non plus, personne n'en a. C'est comme la crème 35%. Si tu ne la fouettes pas à bras, ça ne monte pas. Donc, tu sors ton attirail de dominatrice de l'inertie et tu découvres le plaisir de dominer le monde un coup de fouet à la fois. Schlack! Troisième étape. Ah, et puis tant qu'à être dans les questions à régler pour la rentrée, réglons celle de la crainte d'avoir l'air ridicule. On va rire de toi si tu cours lentement. Si t'as pas le profil ou le body du champion olympique, voyons voir. Pendant que tu t'inquiètes des jugements d'autrui, dans la voiture, juste à côté de toi, il y a un gars pas du tout gêné qui fait des fouilles archéologiques dans sa cavité nasale. Dans la catégorie « avoir l'air fou », avouons que ça relativise. Quatrième étape, slacker. On le sait qu'on gosse sur des détails du quotidien, que tout n'a pas besoin d'être fait à la perfection, que ça a juste besoin d'être fait ou pas. Pourtant, on s'enfarge dans le ciment d'une organisation psychorigide totalitaire qui rend tout le monde stressé et qui justifie le fait qu'on ne prenne pas le temps d'aller faire rugir les moteurs de cette merveilleuse machine qu'est notre corps. Slack le superflu, slack la motivation, bingo, t'es en business. Cinquième étape, balayer la culpabilité de prendre ce temps-là pour bouger. Faire du sport permet de gérer le stress, d'envisager des solutions plus créatives, de mieux travailler, de réguler la glycémie, la pression artérielle, le cholestérol, de réduire les récidives de certains cancers, et en prime, ça te chauffe de la bonne humeur et de l'optimisme dans le cerveau au moment pile où tu en as besoin. En bref, si ta machine tombe en panne, t'es utile à personne. Si tu veux rendre service à l'humanité, va courir. Sixième étape, faire de nos enfants des tyrans. Leur confier le cahier des intervalles, un sifflet, le chronomètre et leur donner l'entière permission de nous crier après façon Yvan Ponton dans Lance-et-Compte. Voyez-les s'épanouir dans la dictature et l'époumonage. Septième étape, profiter de son sport pour doubler ses objectifs. Apprendre une langue étrangère en marchant. Se faire lire Marguerite Duras par Fanny Ardant en pédalant. Par faire sa connaissance des opéras de Verdi sur le rameur. Planifier une stratégie d'affaires avec un partenaire de longue course. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire deux choses en même temps? En plus, quand tu répètes « Wo shi ye ge yang zi », c'est « Je suis un soldat en mandarin ». Je suis sûr que ma prononciation était épouvantable. À voix haute, devant le regard perplexe d'un passant, tu comptes triple dans le département de la victoire sur le ridicule. Voilà, vous êtes maintenant équipé pour fuir à toutes jambes le stress de la rentrée. Ah, et n'oubliez pas de vous hydrater en lisant. C'était donc dans les carnets d'endorphines « Comment réussir sa rentrée sportive en 7 étapes faciles » par Geneviève Lefebvre dans la presse du 22 août.
On est prêt.
Oui. Quelques brèves, Monique.
Alors, un peu dans la continuité de l'histoire des pailles et donc de la pollution, je vous parlerai de tourisme et de l'environnement. Alors, le tourisme compte désormais pour 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et même jusqu'à 80% dans les États insulaires. C'est 4 fois plus que ce qui avait été chiffré dans les estimations précédentes. La hausse annuelle suit celle de 4 % du tourisme à l'échelle mondiale. Le transport des voyageurs y contribue pour 20 % le reste provenant de l'hébergement, la restauration et l'achat de souvenirs. Alors, le tourisme pollue aussi. On peut voir ça d'ailleurs à Venise quand les grands paquebots rentrent dans la Grande Lagune.
Oui, tout à
c'est
fait.
C'est horrible.
Oui, puis c'est sans parler de d'autres problèmes que le tourisme... apporte au niveau de la gestion des logements.
Et, exactement, et de exactement.
Merci Monique.
Oui.
Moi, de mon côté, je vous reviens des îles de la Madeleine, alors je vous en parle un petit peu, particulièrement les sentiers entre vent et marée. J'avais lu un article à ce sujet-là
Oui, on se rappelle bien, oui.
Oui, et on en a fait plusieurs, Marie et moi. Marie est peut-être en train d'en faire un au moment où on se parle. C'est 13 étapes à travers les îles de la Madeleine. Ça nous fait vraiment découvrir les îles d'une façon très, très, très différente. par les routes arrières, par les sous-bois. C'est vraiment une expérience vraiment très intéressante. Et la marche, en plus de l'effort physique, psychologiquement, on parle avec l'autre personne ou on est dans sa bulle. C'est vraiment aussi un exercice très, très particulier.
Oui, c'est très intéressant.
Monique.
Oui, alors, paléo-anthropologie, les arcades sourcilières proéminentes de nos ancêtres ne seraient pas liées à des critères morphologiques. Les chercheurs y voient plutôt un rôle social d'intimidation. Alors, en perdant cette proéminence, Homo sapiens aurait gagné en mobilité des sourcils, améliorant sa communication non-verbale et ses compétences sociales.
Alors, probablement que M. Trump a compris cet article-là. Et on vous revient la semaine prochaine avec beaucoup d'autres sujets. Au revoir.